Vous écoutez
RMC. RMC, Top of the Foot, 18h-21h,
Mohamed Bouafsi, Jean Wittour.
Il est 20h, c'est la dernière heure de Top of the Foot, c'est le moment où on accueille Coach Courbis. Salut coach.
Salut les amis.
Et Jean-Louis,
je vous ai trouvé bavard cet après-midi.
Jean-Louis.
Ah non, nous on a donné la parole et les gens ont beaucoup parlé autour de nous, notamment Rudy Garcia, on va y revenir.
J'étais en vacances.
Oui.
J'étais en vacances il y a une dizaine de jours.
Oui.
Et il nous doit un repas, Roland.
Pourquoi?
Bah, j'ai gagné mon kit tout double. La victoire de Monaco à Reims. Je l'ai oublié.
Ah bon?
Oui. Les terrasses sont ouvertes désormais.
Ah, je l'ai ouvert. Je l'ai oublié moi, mais oui. Effectivement, mais j'attends quand même qu'on honore le pari, effectivement.
C'est vrai. Mais c'était pas kit ou double. On n'était pas kit.
Si non, mais le kit ou double, on l'a pas fait.
Si, on l'a fait et il a perdu.
Ah bon?
Ouais, donc il nous doit un repas.
Mais donc, comme j'avais gagné,
ça fait deux.
Double, on est kit.
T'es sûr?
Ben oui.
Ah oui, ben oui, parce que t'avais perdu le premier pari.
Entre temps, on avait fait un pari, lui et moi.
Bon, d'accord. Bon.
Oh là là là.
Bon, vous
je suis avec des menteurs.
Non, mais donnez-moi un rendez-vous, une heure, une terrasse, et puis on se retrouve à ce moment-là.
Voilà, arrêtez de discuter. On va trouver ça. Hein.
Alors, dans cette dernière heure, on comptait continuer notre bilan de la Ligue 1. On va le faire, hein, bien sûr. On va parler de l'OM, on va parler de Bordeaux avec les projets de reprise qu'on va vous détailler. On va parler d'un maintenu Brest. On sera avec Brendan Chardonnay, le défenseur, puisque les Brestois ont attendu la dernière journée pour se maintenir. Et puis, on va lancer le bar également. Mais tout ce programme est bousculé également par l'actualité, coach, sur laquelle tu vas revenir. Christophe Galtier annonce son départ de Lille et Rudy Garcia règle ses comptes en allumant Juninho, qui manque d'expérience, le directeur sportif. Il était notre invité exceptionnel, Rudy Garcia, à 18h. Lui qui a passé donc deux saisons quasiment à Lyon et qui allume le directeur sportif en disant pendant longtemps, Gérard Rouillet a fait le tampon entre nous deux. Après le décès de Gérard, eh bien, les relations se sont détériorées. Écoutez un extrait de son interview de Rudy Garcia.
Juni a critiqué certaines attitudes de certains joueurs. Il ne s'est pas rendu compte qu'avec les Brésiliens, il œuvrait aussi en leur donnant trop de passe-droit. C'est dommage de ne pas collaborer sur ce genre de décision et d'être trop épidermique sur ce genre de décision. Voilà, la dernière étant avant Monaco, avant la victoire à Monaco, le fait de vouloir sortir carrément du groupe jusqu'à la fin de saison, de paille le capitaine, Ryan Cherki et Oussem Aouar. Donc là encore... je ne sais pas qui aurait marqué le premier but à Monaco et le troisième, et on se serait affaibli.
Voilà, Rudy Garcia qui balance donc ses histoires de fin de saison. Alors, il est allé un peu plus loin sur plein d'aspects. Donc, sur les Brésiliens, il a insisté en disant que Juninho était malheureux à chaque fois que Garcia ne faisait pas jouer les Brésiliens qu'il avait recrutés, comme Guimarães ou comme Jean Lucas. Il a évoqué également plusieurs divergences en disant « Moi, à chaque fois, j'étais prêt à lui parler formation, recrutement, les prérogatives d'un directeur sportif. Lui ne me parlait que de mes compos et de l'équipe première. Il a même réfléchi à donner sa démission en novembre, quand le torchon brûlait réellement. Il est allé informer Vincent Ponceau de cela. Et puis donc, après cette interview, Jean-Michel Aulas a réagi sur Twitter, très déçu de la politique de terre brûlée menée par Rudy Garcia, qui réécrit l'histoire, oubliant qu'il avait le meilleur effectif. Il a ajouté, dommage qu'il n'ait pas réussi à travailler avec Juni, qu'il avait pourtant choisi et accompagné. Juni a tout notre soutien, a dit Jean-Michel Aulas. Il y a eu également des tweets de la famille de Juninho, de certains joueurs comme Guimarães, qui donc n'ont pas compris les propos de Rudy Garcia. Comment tu analyses tout ça, toi, coach?
Ben moi non plus, je ne les ai pas compris, sincèrement, puisque j'essaie toujours, je ne dis pas que j'y arrive toujours, mais j'essaie toujours de comprendre le pourquoi du comment. Quand il y a une déclaration surprenante, j'ai le plaisir de connaître Jean-Michel Aulas depuis très longtemps, Juninho depuis une vingtaine d'années, Rudy aussi, et j'étais très proche de Gérard Rouillet. Et quand il y a eu la venue de Rudy Garcia, ben, j'ai trouvé déjà que c'était une venue un petit peu courageuse, compte tenu du public de Lyon. Donc, et ça, ben, ça a été fait à l'unanimité. J'ai eu l'occasion d'avoir Juninho pour les vœux et pour lui demander traditionnellement comment ça va la santé et comment ça va. Ben, c'était au mois de janvier, c'est puisqu'il n'y avait pas eu de champion d'automne. Il y avait eu un match, le 19e match, et Lyon était premier. Il me dit, écoute, ça se passe super bien. J'y pose la question sur Rudy Garcia. Ben, il me dit, bah, écoute, très, très bien. On était quand même un petit peu inquiet de son intégration, mais là, ça se passe parfait. Et il me rajoute, je pense même qu'on a l'effectif pour être champion cette année, si on a la chance d'avoir un Paris Saint-Germain moins performant. Et là, j'ai toujours pensé, et je le pense toujours, et aujourd'hui peut-être encore plus, parce que je vois que là, c'est pas le cas pour tout le monde, que quand on a eu la possibilité, je dirais même la chance, d'être dans un club comme Lyon, même s'il y a des choses qui se sont pas bien passées, c'est vrai que, tiens, s'il y a un Brésilien qui est supporter de notre Brésilien et qui adore ces joueurs brésiliens qu'il a fait venir, je penserais que ce serait le contraire, l'anomalie. Alors après, si Juni, par moment, ah ben, il est un peu trop passionné, eh ben, on va quand même lui dire gentiment. Et je pense pas que ça peut changer les résultats. Quand on a l'effectif de Lyon, je pense que dans le pire des cas, on doit terminer second. Et là, je me pose la question, et je vous la pose. Il faut savoir partir d'un club. Et la question que oui, je vous pose.
Pour l'avenir.
Mais ma foi, il arrête pas sa carrière d'entraîneur. Donc tous les présidents.
Mais je comprends pas, Roland. Tu lui reproches quoi d'avoir étalé les problèmes
Exactement.
Mais en gros, c'est une mauvaise pub pour lui, pour la CIR.
Toi aussi, t'as fait. Je peux regarder sur YouTube. Mais toi aussi, t'as fait des confs à l'époque où t'étalais tes problèmes avec Loulou Nicolin. Et t'étalais quand t'es parti de Montpellier la dernière fois, ça s'est plutôt mal passé. T'étais.
Donner une explication, c'est une chose, mais partir après 2 ans à Lyon dans un contexte quand même, il faut comparer ce qui est comparable. Si moi je m'accroche avec Loulou Nicolin, c'est quand tu t'accroches pas avec Loulou Nicolin qu'il y a quelque chose qui peut être surprenant. Donc,
un futur président peut se dire, je vais pas prendre celui-là, il va nous allumer dès qu'il va partir.
Mais je pense que là, c'était quand même déjà une arrivée. Un petit peu surprenante et compliquée. Ça s'est bien passé. S'il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées, on va pas quand même écouter maintenant, et c'est là que je trouve que la comparaison de Mohamed, elle est pas bonne. Parce qu'il est en train de nous expliquer finalement que c'est lui le responsable, mais par contre, derrière ça, il y a toute une liste d'une dizaine de choses qui n'est responsable de rien. Ni des changements, ni de la forme, ni du fait de paille qui aurait pu être avoir non plus. Donc je pense sincèrement que par élégance, par principe, par correction, par politesse, tu dis écoutez, tout n'était pas parfait, mais j'étais très bien accueilli à Lyon, c'était un petit peu difficile au machin, ben on aurait pu mieux faire, il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes, et je souhaite bon avenir à l'Olympique Lyonnais. Je règle pas les comptes de cette façon-là, et là où je trouve que c'est contre ses intérêts, c'est que les présidents des autres clubs, quand ils voient ce règlement de compte en partant, alors que tu perds chez toi contre Nice, arrivé à la 60e minute, tu n'as même plus une occasion d'ici la fin. C'est la faute à Juninho, ça. Donc je crois que là, eh ben, on se tait. Des fois, on parle un petit peu trop, mais on se tait aussi dans son intérêt à lui, puisque un président maintenant il va se dire oulala, celui-là quand il va partir, qu'on va se prendre dans la gueule. Donc je pense que c'est maladroit de sa part. Ben il y a des jours où on est en méforme. Là je le trouve par moments habile dans certaines réunions, dans certaines causeries, dans certaines conférences. Là je l'ai trouvé maladroit. Voilà, c'est tout.
Non mais je pense Roland, il y a certains points où je te rejoins, mais je pense que aujourd'hui s'il a dit tout ça, c'est qu'il en avait gros sur la patate. C'est tout, c'est qu'il a envie de se lâcher. Je pense pas que Juninho, que Rudy Garcia, je dis pas que ce que dit Rudy Garcia est vrai ou est faux, je ne sais pas. J'ai pas certains éléments, je sais que c'est plus ou moins vrai. D'autres, je pense que il a peut-être chargé la mule sur Juninho. En revanche, quand tu dis quelque chose, Roland, t'as pas toujours une arrière-pensée derrière la tête. C'est-à-dire que là, quand il lâche tout ça, c'est peut-être qu'il en avait gros sur la patate, qu'il a envie de tout dire, et qu'en gros, il s'en fiche un peu de son avenir quand il dit ça. Il dit ça parce qu'il a envie de se libérer d'un poids, sans doute. Il a envie de que les gens puissent savoir à tort ou à raison.
Ça, comment ça? Moi, je pense que c'est une plaidoirie d'avocat qui t'explique que finalement, dans l'échec de Lyon, il est pour pas grand-chose.
Oui, mais ça,
il est pour rien parce qu'à un certain moment, il a dit, moi, c'est moi le responsable.
Non, mais
c'est moi le responsable.
Parce que je l'ai dit tout à l'heure.
Mais
il a dit cette phrase.
Numéro 2, numéro 2.
Voilà, tout ça.
Numéro 6,
c'est-à-dire que sorti de cette phrase,
il n'assume rien.
Ça, on est d'accord. Ça, là, je te rejoins entièrement. Quand il minimise peut-être Rudy Garcia, même sans doute son importance, sa responsabilité, ça, je suis entièrement d'accord. En revanche, on est tous d'accord que le buzz qui a été créé après cette interview, c'est ses propos très lourds, très forts. C'est un règlement de compte sur Dunio. Si l'achat, c'est qu'il se dit, bah tiens, j'ai envie de me libérer. Et peut-être que Dunio va parler derrière. Et peut-être que Jean-Michel Aulas va parler derrière. Mais s'il dit ça, c'est qu'il sait très bien qu'il y aura une réaction. Donc, il a envie de se dire, aujourd'hui, je lâche tout et je m'en fous de la suite.
Elle est maladroite. Et elle est stupide, cette conférence et ses explications. Je pense que tout le monde est au courant que dans une saison, tu fais des erreurs. Tu as entendu Jean-Michel Aulas, qui est quand même le plus expérimenté et le plus compétent des présidents en place actuellement, avec des hauts, des bas. Lui-même, il te dit, malgré mon expérience, malgré une certaine intelligence, une certaine compétence, une réussite personnelle et tout, ben, il m'est arrivé de faire des erreurs. Donc, si par exemple, tu es en train de nous expliquer, quand tu t'appelles Rudy Garcia, avec la responsabilité que tu as, puisque tu es coach de l'Olympique Lyonnais, c'est pas n'importe quel club, que finalement le responsable c'est Juninho, mais évidemment que Juninho n'a pas dû être parfait tout au long de la saison, mais tu ne dois pas régler tes comptes en disant finalement c'est pas moi qui suis responsable, c'est Juninho. Je trouve que c'est maladroit, mais et je trouve que c'est contre ses intérêts. Donc voilà, c'est tout. Et si j'avais la possibilité et que quand j'aurais la possibilité de le croiser, chez Rudy, il y a un truc qui m'a échappé là. Je l'ai d'ailleurs commenté à la radio. C'était quoi ton but là, de partir comme ça avec toutes ces égratignures à droite et à gauche?
Mais peut-être qu'il n'y a pas de but. Roland, il n'y a peut-être pas toujours de but dans la vie. Il n'y a pas toujours des arrière-pensées. C'est-à-dire que
tu as raison. Peut-être que dans 8 jours, tu veux m'expliquer que Rudy Garcia, il va écouter donc l'enregistrement de ce qu'il a dit. Qu'est-ce que j'étais con.
Ben non, il le dira pas.
Peut-être.
Ben non, il le dira pas.
C'est possible.
Ben non, il le dira pas. Il le dira pas parce que si.
Pour finalement me prendre des gifs à droite et à gauche.
On va donner la parole à Karim qui est là au 32-16 et qui veut réagir. Salut Karim.
Salut Karim.
Salut tout le monde. Salut.
Salut Karim.
Alors, ça t'a étonné là les propos de Garcia?
Moi franchement, vous m'avez un peu déçu là les journalistes Momo et Jean-Louis, parce que je me suis créé un moment dans Vivement Dimanche. Et que c'était Michel Drucker qui interviewait Rudy Garcia. À un moment, j'ai failli pleurer. Oh,
Michel Drucker, c'est une légende quand même.
Vous avez trop arrondi les angles, genre oui, machin, le gars il se confiait. J'ai cru qu'il allait demander de l'argent pour prendre un taxi et rentrer chez lui après à la fin de l'interview.
Dis-moi, peur. Karim. Attends, quand même. Est-ce que tu crois que si on lui était rentré dedans, comme tous les supporters lyonnais auraient rêvé qu'on le fasse, est-ce que tu crois qu'il serait venu?
Mais non, faut le mettre devant les... Moi, je me serais permis de le mettre devant les faits accomplis. T'as eu un très bon effectif. Vous, si vous, l'audience baisse, on vous dit, Momo et Jean-Louis, on vous a donné les clés d'une émission, le contenu, machin, vous l'avez fait. Moi, bon, l'audience est mauvaise. Voilà. Et vous allez pas dire, oui, c'est de la faute de machin. Non, vous allez assumer. Lui, il assume jamais. Il a été à l'OM, il a fait une campagne de transfert, on en paye encore les pots cassés. Là, on lui donne un effectif compétitif, sans Coupe d'Europe.
Eh ben, ça, Karim, on lui a dit, mais lui, il considère que c'est pas un échec, ces deux saisons.
Il sort tout le temps le parapluie. Il est tout le temps en train de se trouver des excuses.
Oui, mais on va pas forcer les gens à répondre comme tu le veux, en fait. Nous, on lui demande, est-ce qu'il pense que c'est un échec? Il dit non. On va pas dire, bah si, c'est un échec. Tu vois?
Non, mais arrêtez. Je me permets pas. Hein. Moi, je suis pas journaliste. J'accompagne des demandeurs d'emploi. Donc,
c'est pour ça qu'on essaie de t'expliquer. Il y a pas de souci.
Mais moi, ce que je pense, c'est que cette personne-là est tout le temps en train de sortir le parapluie. Mais c'est vraiment, elle vient avec des excuses. C'est pas moi, il y a eu des
conditions. Non, mais ce que je veux te dire, c'est que sois énervé contre lui, pas contre nous. Voilà, c'est tout. Ça ne changera rien.
Mais en fait,
si Karim,
Karim, c'est pas nous de lui dire, Rudy Garcia, vous sortez tout le temps le parapluie. C'est ça qu'on veut t'expliquer. Ça, c'est toi qui le déduis. Ça, c'est-à-dire que nous, on est là pour lui poser des questions. Si les réponses ne nous plaisent pas, on garde notre avis, mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut pas dire à Rudy Garcia, vous êtes content, on n'est pas supporter lyonnais.
Mais moi, je lui ai dit quand même, est-ce que vous n'avez pas peur que tout ce que vous dites là soit interprété comme des excuses pour expliquer votre échec? Et il a dit non, pas du tout.
Non, mais je trouve autour de cet entraîneur, il y a trop de mansuétude. Il est mauvais.
Non, arrête,
c'est le Bernard
Karim,
Madoff du football.
Arrête,
partout
Karim.
Où il va, partout où il va, c'est la terre. Quand il part, c'est avec perte et fracas. Mais... c'est une catastrophe. Là, il a un super effectif qui nous sort son baratin. Moi, je suis pas lyonnais, hein, je suis marseillais. Mais moi, c'est parce que je le connais, le Rudy Garcia. Maintenant, on est immunisé, nous. Il reviendra plus. Mais ce qui est chaud, c'est qu'à chaque fois qu'il vient, il part en mettant le bazar sur le club, en discréditant les gens avec qui il a travaillé, et de la dignité. T'as pas atteint les objectifs, tu pars dignement. Et voilà, c'est la première personne qui va être plus détestée en partant qu'en arrivant. C'est un
peu Karim, tu viens de répondre à tes premiers propos à l'instant. Quand tu dis que c'est la personne la plus détestée et que Julien Cazard l'a dit tout à l'heure, c'est le sac de toute la de tous les journalistes français ou de toute la Ligue 1 et de tous les éditorialistes.
Sac de frappe.
Oui, sac de frappe, pardon, sur lequel tout le monde tape.
Pas compris,
oui, non, mais c'était moi qui n'étais pas clair, Karim, pas de souci. Mais tu dis à l'instant que, en gros, tout le monde le déteste et tu dis juste avant, ah, il bénéficie de la mansuétude. Arrête, Karim, il bénéficie pas du tout de mansuétude. Rudy Garcia, il est pas apprécié par une majeure partie la totalité quasiment désormais des supporters lyonnais, aussi des supporters marseillais. Les éditorialistes sont très durs avec lui. D'ailleurs, dès les éditorialistes chez nous aussi, c'est le cas. Il bénéficie pas de mansuétude. Faut arrêter.
C'est là sur Garcia. Merci Karim en tout cas. T'as le droit de venir le jour que tu veux. Il y a pas de souci.
Bonne soirée Karim.
À bientôt sur RMC. Dans une seconde. Galtier, qu'as-tu pensé de son interview, coach également il y a quelques minutes, lui qui annonce son départ de Lille et qui dit hésiter entre trois projets, Lyon, Nice et Naples. On y revient dans un instant, 32-16 pour débattre.
RMC, Top of the Foot, 18h-21h,
Mohamed Bouafsi,
Jean-Louis Tour. 20h17, c'est Top of the Foot avec coach Courbis. À partir de 20h30, les infos sur les reprises potentielles à Bordeaux. On fera le point avec Nicolas Paolorsi. Et on continuera le bilan de la Ligue 1. On ira à Brest et à Toulouse. Toulouse qui va disputer le barrage face à Nantes. Mais on revient sur l'actu du jour très riche entre les propos de Rudy Garcia tout à l'heure et ceux de Christophe Galtier il y a quelques minutes chez nos confrères de l'équipe. Galtier annonce, c'est le moment de quitter Lille. C'est la seule certitude que j'ai aujourd'hui, c'est que mon temps est fait à Lille après 4 saisons. Il dit que c'est une décision très personnelle de quitter le club, qui n'a rien à voir avec le départ de Gérard Lopez, qui n'a rien à voir avec d'éventuels transferts à venir et donc un effectif qui aurait moins de bons joueurs. Il parle de 3 clubs, il hésite entre Lyon, Nice et Naples. Quand on lit un peu entre les lignes, on a l'impression quand même que Nice est sa priorité. Il met en avant le projet mené par Ineos, ses liens avec Julien Fournier, le directeur sportif, et il ne minimise pas du tout le projet niçois, même si ça semble être une régression par rapport à Lille, champion de France, de ne pas disputer la Coupe d'Europe. Qu'est-ce que tu penses de tout ce qu'il a dit, coach?
Je pense déjà que son départ n'est pas une surprise du tout. Hier, je l'ai trouvé très adroit et très élégant, puisque c'était pas la journée de parler de son départ, même si la question était logique qu'on lui pose. Il disait non, je sais pas, et même il a laissé sous-entendre qu'il pouvait rester à Lille pour être un petit peu tranquille dans une journée où on fête un titre. Il y a plusieurs moments qui me font dire que la saison de Christophe Galtier est une saison extraordinaire. C'est cette façon de maîtriser les problèmes, et notamment, si vous vous rappelez bien, on en a pu reparler de ça, c'est qu'à un certain moment, on l'a vu assez triste et assez un petit peu, je dirais pas découragé, mais inquiet, qu'il n'avait même plus de nouvelles au téléphone de Campos.
C'est vrai.
Et là, si à cette époque-là, avec la tête qu'avait Christophe, on allait me dire que Lille allait être champion dans cette saison-là, sachant qu'en coulisses, il y avait des difficultés financières, qu'il faudrait vendre je ne sais pas combien de joueurs pour une certaine somme au mois de janvier, de l'ordre de 50 à 60 millions d'euros. Et ça a été une saison quand même compliquée. Je pense qu'au fur et à mesure que la saison passe et passé, et avec en plus ce final extraordinaire pour faire de Lille le champion de notre saison, ben je crois que la décision elle était déjà prise depuis pas mal de temps, et ensuite ça n'a pas empêché, la preuve, une certaine motivation. Et en ce qui concerne le nouveau challenge, compte tenu que faire mieux que ce qu'a fait Nice, Lille cette année, c'est tout simplement impossible. Par contre, lapsus révélateur, je parle de Nice. Aller à Nice, ça réunit plusieurs choses. La possibilité de mettre en place une grosse équipe avec des moyens. Quand tu auras des bons joueurs à Nice, c'est pas interdit de les transférer si vraiment il y a des offres extraordinaires, mais ce sera pas des obligations. C'est pas tout à fait pareil.
Ça change tout.
De regarder la quinzaine de joueurs qu'il y a à Nice aujourd'hui et de se dire, tiens, avec 4 ou 5 joueurs qui ressemblent un petit peu à des joueurs qui sont à Lille. Je dis pas qu'il faudra acheter cinq Lillois, encore que c'est pas interdit, c'est peut-être même une très bonne chose pour tout le monde. Il y a aussi le fait de, après 7 ans à Saint-Étienne, 4 ans à Lille, si tu retrouves un peu plus de soleil, si tu retrouves la Méditerranée, tu vas pas pleurer tous les matins, même si tu étais heureux dans ces endroits extraordinaires. Donc là, après, tu retrouves un ami et un président qui est quand même sympa, compétent, et qui forme un duo complémentaire avec Julien Fournier que Christophe connaît très bien. Tiens, Ineos, qui aussi, pour les superstitieux, chaque fois qu'il touche à un sport, ça marche. Donc ça réunit beaucoup de choses, et que le lendemain, où il nous a dit que peut-être même il y avait une chance qu'il reste à Lille. Il y avait d'ailleurs un rendez-vous très important avec le président prochainement.
Il a eu.
Il a eu au petit déjeuner ce matin. Donc et c'est sûr que il a dû durer entre 4 et 5 minutes le rendez-vous. Donc je trouve ça sympa, et on va suivre maintenant avec beaucoup de curiosité ce qui va se passer à Nice. Et coïncidence, tiens, Nice avec Galtier, un recrutement réussi, une certaine atmosphère dans le vestiaire, une certaine ambiance, que Nice sera dans les 5 premiers de la saison prochaine et pas obligatoirement à la 5e place. Eh bien tiens, voilà,
Momo, tu le signes maintenant, là.
On en parle dès aujourd'hui, ça fera un resto de plus avec Momo dans nos paris habituels.
Je sais pas qu'est-ce qu'il en fait.
Non, mais je le signe. Donc,
t'es d'accord avec lui.
Je suis d'accord parce que.
Alors, on ira au cinéma.
Je pense que.
Moi, je veux bien signer pour la 2e place de l'OM cette saison. Ça, c'était le pari du début de saison.
Vous êtes sur la messagerie automatique de Moël Boissy. Veuillez lui laisser un message.
C'est ça, Momo.
Non, plus sérieusement.
Enfin, c'est pas joué à grand-chose.
Non, mais c'était subjectif. Non, pour revenir au projet Nice, je pense que c'est le projet. Parfait, Roland. Je suis d'accord avec toi pour Christophe Galtier. Un projet parfait parce que tout est réuni. Un président qui est très compétent, qui est Jean-Pierre Hivert. Un directeur général du football chez Ineos, Julien Fournier, qui est un ami de Christophe Galtier, qu'il connaît depuis 20 ans. Un directeur du football qui connaît bien en plus le football. Christophe Galtier qui revient pas loin de la Méditerranée. Christophe Galtier sur la Méditerranée même. Christophe Galtier qui va diriger, être manager général, avoir la main de ce projet, être le cœur du projet Ineos, avec des échanges continus en confiance avec son président et son directeur du football. Une équipe, une fortune estimée de Jim Ratcliffe à 17-18 milliards d'euros, avec un actionnaire, un boss qui va vouloir mettre de l'argent dans le club pour reconstruire le club, un super stade, une ville qui aime le football.
Ah oui.
Une ville qui aime le football. J'ai été à Nice à plusieurs reprises.
C'est vrai que le stade là aussi est magnifique.
Le stade, il est magnifique à part
mais
la sortie.
Mais bon, il y en a beaucoup de stades magnifiques.
Oui, non, mais à part.
De plus en plus.
Oui, mais ce que je veux te dire, c'est que t'as une ville qui est passionnée de football. Alors oui, peut-être que sur le court terme, le projet peut paraître moins sexy que Lyon. Mais en revanche, je vais dans un endroit toujours où je suis en confiance avec les gens. Et c'est pas une question de confort, c'est une question de confiance. J'aurai toujours plus de facilité à discuter personnellement. Et je pense que c'est la même chose pour Christophe Galtier, je le connais bien. On était avec lui hier. Je pense que pour lui, c'est important la confiance. Il l'a eu avec Luis Campos, il l'a eu avec Gérard Lopez, il l'a désormais avec Olivier Létang. Et c'est pour ça qu'ils se sont parlé et qu'il lui a annoncé qu'il partait. Et c'est toujours plus facile de se dire les choses. Voilà, quand on a une bonne relation et qu'on travaille bien. Et lui, pour lui, tout est réuni à Nice.
On va donner la parole à Julien qui est supporter de Lille et qui a fait 32-16. Salut Julien.
Salut Julien.
Salut l'équipe, ça va ?
Salut Julien.
Ça va et toi ?
Bah ouais.
Bon, t'étais prêt, un peu préparé au départ de ton entraîneur ?
Bon, je pense que c'était un secret polichinelle pour tout le monde, vu les échos dans la presse. Et je pense que pour lui, en plus, finir sur un titre de champion, c'était écrit qu'il partait, je pense. Quand on nous dit qu'il attendait la fin du championnat pour décider, dans sa tête, c'était déjà fait. Je pense qu'Olivier Létang aussi s'en doutait.
Oui, et je pense que c'est même déjà fait dans son futur club. Mais bon, après ça, je peux me tromper. Hein, mais il nous dit qu'il hésite. À mon avis, il y a une grosse tendance. Il laisse l'hésitation peut-être pour négocier un peu. Enfin, après, voilà, je sais pas. On verra ce que ça donne. Hein, mais
négocier, peut-être, il n'y a plus rien à négocier.
Peut-être aussi.
Ah ouais. Oui, il y a son année de contrat à Lille.
Ouais, peut-être, ouais. Et tu voudrais qui comme remplaçant, Julien ?
Alors là, bonne question. Alors, on nous a parlé de remettre la formation au cœur du projet à Lille, comme c'était à l'équipe, au moment de l'équipe coachée par M. Puel. Donc, on nous parle de Laurent Blanc, mais est-ce que Laurent Blanc a le profil ? Je me pose des questions sur le sujet. Donc, je pense que ce ne sera pas un entraîneur français. Je vois bien un entraîneur étranger tenir. On nous parle de Fabre, j'y crois pas trop. Mmh. On nous parle de Mota, je pense pas qu'il ait les épaules pour assumer. Au Genoa, on n'a pas gardé un souvenir
incroyable
de lui. Ouais, donc voilà, bonne question. Mais une bonne question. Donc, je pense que vous serez exorcé d'ici peu sur les entraîneurs potentiels.
Ah bon, on va bosser dessus.
Moi, sincèrement, je pense que le duo Laurent Blanc-Passy, ça serait pour moi le bon duo pour l'après-Galtier. En plus, Laurent Blanc et Olivier Letang s'entendent très bien. Ils ont déjà été dans le même club au Paris Saint-Germain. Donc, et en plus, je verrai bien Passy entraîner Lille. Donc, je verrai bien cette formule.
Passy a sauvé Lille.
Aussi, oui, t'as raison. Merci Julien d'être venu au 32-16.
Merci,
à bientôt.
Merci, merci à vous. Salut.
Salut Julien. Et reste bien sur rmcsport.fr et dans Top of the Foot pour avoir les infos sur le nouvel entraîneur de Lille. Dans une seconde, on revient sur notre bilan de la saison en Ligue 1. On va parler de Bordeaux, de Brest et du barrage entre Nantes et Toulouse. À tout de suite dans Top of the Foot.
C'est 18h-21h, Top of the Foot.
Mohamed Bouafsi, Jean-Louis Tour.
Il est 20h30, c'est la dernière heure de Top of the Foot sur RMC avec Coach Courbis. Dans cette dernière heure, on continue notre bilan de la saison en Ligue 1. On ira à Toulouse tout à l'heure puisque Toulouse prépare son barrage d'accession face à Nantes. On sera à Brest, les Brestois sauvés grâce à cette incroyable victoire de Montpellier à Nantes. Brendan Chardonnay, le défenseur de Brest, sera notre invité. Et puis on suit également toute l'actu comme tous les soirs dans Top of the Foot. Sachez qu'à Barcelone, une réunion vient de débuter entre Coman et Laporta, le président. Donc sans doute à l'issue de cette réunion, on saura si le Barça continue avec Coman ou s'il s'en va.
Oui, va aller à Lille.
Oui, t'as raison. Mais désormais, Lille doit trouver un entraîneur après l'annonce du départ de Christophe Galtier. Mais là, on va à Bordeaux tout de suite, coach. On retrouve Nicolas Paul Orsi, notre correspondant sur place. Salut Nico.
Salut les gars. Salut à tous. Salut,
il a le sourire. Hein. Ça y est.
Ah oui, ça y est, je respire enfin.
Ah oui.
Bah oui, Bordeaux est en Ligue 1. Enfin,
ah oui, je croyais que tu.
Sportivement.
Je croyais que tu avais le sourire pour le nouveau repreneur. Et tu te disais, c'est bon, là, l'année prochaine, on va tout cartonner.
Bah, donc, on est plutôt optimiste, en tout cas.
Ah, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant ?
Alors, on peut dire qu'il y a des candidats qui ont dû se déclarer et faire une lettre d'intention à la banque qui a été mandatée pour le rachat. C'est la banque Rothschild. La deadline, c'était hier 17h. Et il y a plusieurs dossiers qui ont été envoyés à cette banque. Donc, ça veut dire déjà, bonne nouvelle, qu'il y a vraiment des repreneurs solides, ou en tout cas des candidats intéressés par les Girondins de Bordeaux. On peut retenir trois gros projets. On en a déjà parlé dans Top of the Foot, mais le projet de Pascal Rigaud, vous savez, l'homme d'affaires girondin, qui est un amoureux du club, qui a fait fortune aux États-Unis en montant un concept de boulangerie à la française qui a assez cartonné. Il y a Stéphane Martin dans ce projet-là. C'est un plan de reprise qui est bien avancé. Ils ont beaucoup bossé. Et eux, ils pensent notamment, et ils bossent déjà sur une nouvelle équipe sportive avec Gilles Grimandi comme piste au poste de directeur sportif, et ils ont rencontré Patrick Vieira pour le poste de coach. Alors ils ont une petite shortlist pour les coachs, mais Patrick Vieira est vraiment en tête de liste de cette shortlist. Il y a un deuxième projet, et celui-là, on l'a sorti ce matin sur le site rmcsport.fr, piloté par John Williams, l'ancien directeur sportif d'Amiens, qui est soutenu par des investisseurs américains et français. Là aussi, c'est un projet assez costaud, de ce qu'on nous dit. Vas-y, Mo.
Non, je disais... Ce projet m'inquiète un peu, mais vas-y, je t'écoute.
Bah, en tout cas, nous, les retours qu'on a, c'est qu'en termes de fonds propres, c'est assez costaud. Et on se dit, ces dernières heures, qu'il pourrait y avoir un rapprochement entre le projet de Pascal Rigaud et le projet de John Williams pour avoir encore plus de poids dans les négociations. Et enfin, il y a un troisième projet, et là, c'est un peu plus surprenant comme nom, c'est Didier Quiot. Vous vous en souvenez, bien évidemment, Didier Quiot, l'ancien DG de la LFP, qui, lui, est avec un consortium d'investisseurs européens. Et qui lui aussi est intéressé par le rachat des Girondins de Bordeaux. On a beaucoup
évoqué.
Ouais, bon, alors Didier Quillot, je te cache pas, coach, que quand on en a parlé un peu supporter bordelais avec ce qui s'est passé avec Mediapro, c'est pas forcément pour les rassurer. Mais en tout cas, c'est un projet qui est assez costaud. On a beaucoup parlé également d'un fonds d'investissement chinois. Enfin, c'est un panel d'investisseurs qui s'appelle Fosun, qui s'était déjà intéressé au club en 2015 pour acheter le club à M6. Et à l'époque, ils avaient un gros projet. Ils voulaient mettre Zinedine Zidane à la tête du club. Et apparemment, ils sont là aussi déclarés candidats. On peut pas encore confirmer totalement ces informations, mais c'est vrai que les Chinois s'intéressent au club. Donc il y a pas mal de projets quand même costauds qui s'articulent autour des géants.
Mais disons que l'orientation de ce que tu nous dis, c'est que il y a peu de chances que Bordeaux dépose le bilan. C'est la chose la plus importante.
Ouais, complètement. Déposer le bilan, ça paraît improbable. Après, ça va être une question de timing. Il va falloir que les repreneurs se manifestent assez vite. En fait, en gros, ce qui va se passer, si vous voulez, pour être assez clair dans le timing, c'est que maintenant Rothschild a les dossiers entre ses mains. Rothschild, la banque, va dire bah, ce projet-là, il est costaud. Ce projet-là, il est un peu plus faible. Et les candidatures qui seront retenues vont avoir accès au data room du club, c'est-à-dire qu'ils vont avoir accès à toutes les données financières des Girondins. Et à partir de ce moment-là, les futurs repreneurs vont dire bah, vu la situation du club, oui on y va ou non on se désiste. Et après on accélérera pour la cession.
C'est le moment qui va être le plus important, comme vient de le dire Nicolas, parce que souvent quand il y a une vente de club, on peut parfois cacher certains cadavres et cacher certaines choses aux futurs repreneurs. Là, ils vont avoir accès à tout. Et je pense que ça va être un moment très important parce qu'il va falloir que les trois potentiels ou quatre repreneurs se disent qu'ils sont capables de mettre 100 millions d'euros au pot juste pour équilibrer le club. Mais après, Roland, mettre 100 ou 150 millions d'euros pour relancer une vie, une dynamique autour de club. Et là, la situation, elle est plus que compliquée.
Non, mais elle est plus que compliquée aussi pour tous les clubs. Donc tu t'imagines Bordeaux, parce que pour tous les clubs, c'est difficile au moment où on se parle de mettre en place un budget pour la saison prochaine. On ne sait pas combien seront les droits.
Bien sûr. Anthony est là au 32-16, supporter de Bordeaux. Salut Anthony.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce que tu penses des infos données par Nico sur ce qui se dit sur la reprise du club ?
Alors écoute, on a tellement été échaudés ces derniers mois et ces dernières années qu'en fait, moi, je vais attendre la prochaine étape, quoi. Parce que ben là, comme dit Momo, le problème, c'est qu'il y a des gens qui se présentent. Déjà, moi, je comprends même pas qu'un mec comme Quillot puisse, avec tout le mal qu'il a fait au football français, puisse... ne serait-ce que postuler. Déjà, ça me pose un problème. Donc après, une fois que la banque Rothschild va faire un peu le tri, on va voir un petit peu qui a la possibilité, la capacité financière, surtout, de racheter les Girondins. Après, moi, j'entends beaucoup de discours de certains repreneurs, donc c'est très bien, dans le discours c'est très bien, c'est limite un peu ce qu'on veut tous entendre à Bordeaux, c'est-à-dire retrouver l'identité, l'âme du club, la formation avec des joueurs, des jeunes du coin, etc., etc. Donc ça nous plaît, mais à un moment donné il va falloir aussi des actes, et là je reste très méfiant parce que voilà, on a eu une très mauvaise expérience il n'y a pas si longtemps, donc du coup voilà, moi je reste sur la réserve et j'attends vraiment la prochaine étape qui va déjà montrer qui a ce pouvoir financier pour pouvoir nous racheter, quoi. Mais
Anthony, juste, ouais. Parce que j'entends ta remarque sur l'un des trois projets là avec Kyo, et je t'ai senti très direct, et j'allais pas réagir quand Nicolas dit, mais là, parce que j'ai la chance de te parler directement avec tes supporters bordelais, je te réponds directement. Tu sais que Didier Quillot, il a une part de responsabilité, mais il y a aussi 25 présidents qui ont validé le Mediapro en France. Donc, ce que je veux te dire, c'est que Didier Quillot, il a une carrière dans le business, en tout cas. Tu peux aller sur Wikipédia, Google, qui a été très, très importante. C'est lui qui convainc Macourt de racheter l'Olympique de Marseille. C'est pas non plus un lapin de 6 semaines, c'est pas non plus quelqu'un qui vient à peine d'arriver dans le foot. Et sa responsabilité, et je pense que les supporters de Bordeaux, même s'ils détestent l'Olympique de Marseille, ils aimeraient bien avoir un Macourt qui a mis 300 millions d'euros dans le club à peine en arrivant et en l'achetant. Donc tu vois, c'est pas Quillot, Anthony, c'est pas le plus important. Ce qui est le plus important, c'est celui qui signe l'échec. Et est-ce qu'il est suffisamment costaud pour les signer l'échec et pour faire rêver les supporters bordelais? Donc, qu'il y ait Kyo à côté ou un autre, ça sera pas l'intermédiaire qui sera le plus important, à moins qu'il soit nommé président. Et là, il aura un quotidien important. Le plus important, c'est l'actionnaire et qui montre que cet actionnaire, il est capable de remettre les Girondins de Bordeaux à leur place, c'est-à-dire une des grandes places, une place forte du football français. Parce qu'on a une critique. Vas-y, Anthony.
Je te rejoins sur tout ce que tu viens de dire, mais il faut pas oublier que si la situation, on en est là aussi. Alors oui, tu me dis qu'il y a effectivement les présidents, mais les présidents de divers clubs ont tellement enchaîné les catastrophes dans leur choix depuis des mois par rapport au Covid, par rapport à l'arrêt du championnat, etc. que Didier Quillo, c'était quand même le maître à bord. Et à un moment donné, moi, c'est trop frais, si tu veux, pour avoir un réel enthousiasme quand je vois un projet qui est porté par ce nom-là. Donc pour moi c'est trop frais. Donc après peut-être que son projet est très bien et on va voir la suite. D'ailleurs s'il est retenu par la banque Rothschild ou pas. Après moi je me questionne sur encore une fois ce que j'entends, les discours que j'entends. Je suis globalement pour tout te dire, je suis globalement pas pessimiste, mais je suis entre les deux, quoi. C'est-à-dire D'accord. que claquer 200 ou 250 millions pour remettre le club à flot par les temps qui courent,
Anthony,
pas inquiet, mais je suis très dubitatif.
Et qu'est-ce que tu penserais du retour d'un entraîneur qui est passé sur le banc à deux reprises il y a 25 ans, genre Roland Courbis, s'il est dans un plan de reprise?
Mais il est dans un plan de reprise. Mais
bien sûr,
il va nous trouver des investisseurs.
On avait dit qu'on disait rien.
C'est lui l'investisseur.
Ouais, encore, c'est ça.
C'est lui qui rachète.
On avait dit c'est que le PEL qui rachète.
On avait dit qu'on disait rien.
Ah ouais, pardon. Merci Anthony en tout cas.
Je peux te répondre à ça?
Bah oui, bien sûr.
Alors donc moi si Roland Courbis revient à Bordeaux,
oui.
Alors c'est avec grand plaisir.
Oui.
Mais par contre, à partir du moment où il remet les pieds à Bordeaux, je veux plus l'entendre parler du titre de 99 qu'on a volé nanani nanana à Paris. Donc ça, voilà, moi c'est
Après,
moi je suis pour toi, il n'y a pas de problème.
Il vous en veut pas à vous, hein, là-dessus.
Sincèrement, je suis déçu. Parce que tu m'as jamais entendu dire ça. Au contraire, quand il y a ce débat-là, je dis bravo Bordeaux, ils ont gagné. Mmh. Allez, et match le retour ou le contraire. Et cette année-là, il aurait fallu deux champions.
Non, tu dis bravo Bordeaux, ils ont gagné avec l'équipe que j'ai construite.
Oui,
Normalement, c'est ça.
On les connaît, tes sous-entendus. Des fois, que les Parisiens, ils ont joué un petit peu.
Sur le PSG, c'est pas des sous-entendus.
Sur le PSG, t'as besoin de Sherlock Holmes. T'as simplement qu'à regarder Adilton quand il marque le but.
Bon.
Qui lève les bras et qu'il n'y a pas un coéquipier qui va l'amasser. Donc, c'est sûr que là, Sherlock Holmes, il a deviné.
Bon, on est revenu sur le titre de 99. Merci Anthony, en tout cas.
Mais c'est pas là qu'il s'est gagné et c'est pas là qu'il s'est perdu.
Voilà. Merci Anthony de l'avoir relancé sur la saison de 99. Là, on va repartir en détail. Et le match de Nantes. Allez, salut Anthony.
Bordeaux est quand même un club qui me laisse pas indifférent.
Bien sûr. Donc avis aux futurs repreneurs.
Non, arrête avec ça.
Moi je prends coach en conférence de presse, hein. Avant match, après match.
Non, nous on prend pas. Hein.
Il faut que t'aies de la batterie pour recharger. C'est long. Voilà,
c'est vrai qu'on est un peu juste au niveau du matos.
Merci Nico. Dans 5 minutes, parce que là, si on entend la sono derrière toi, c'est parce que tu es à Union Bordeaux-Bègles Montpellier.
Oui.
Match de top 14 qui commence dans 5 minutes.
Avec un stade avec 1000 supporters.
Ah, c'est sympa.
Voilà.
C'est pas mal. Mais il n'y a pas de couvre-feu?
Eh ben, c'est bizarre, mais il y a du monde dans le stade. Bon, je vais essayer d'éclaircir ce point.
Ah, tu es sûr qu'il y avait une préparation de match autorisée?
Merci Nico.
Ben, écoutez, je vais essayer de bosser là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a du monde dans le stade.
Allez, à tout de suite pour suivre ce match, bien sûr, sur RMC. Dans notre bilan de la Ligue 1, alors on a parlé de pas mal de choses hier déjà, mais on continue d'évoquer certains clubs dont on n'a pas parlé. Et notamment les Brestois qui ont réussi à se sauver. Et les Brestois qui peuvent dire merci au Montpellier. Hein. Brendan Chardonnay, le défenseur de Brest, est en direct avec nous. Salut Brendan.
Salut Brendan.
Ouais, salut les mecs.
Et bravo, vous avez évité le barrage.
Ouais, merci. Bon, c'est pas de notre fait parce que nous on n'a pas réussi à accrocher un match nul contre le PSG, mais voilà, Montpellier était faire le boulot à Nantes et on peut les remercier.
Et dis-nous, dans tout cas, ça reste entre nous. Le Montpellier qui gagne à Nantes, c'était des discussions que vous avez eues le match avant quand vous avez fait 0-0 à Montpellier.
C'est vrai qu'après le match, on les a On les a un peu chauffés. je connais deux, trois joueurs, notamment Gaëtan Laborde. Donc, si vous pouvez nous filer un coup de main, ça nous aiderait bien.
Mais Brendan, trêve de plaisanterie sur le sujet, parce que je le disais hier dans Top of the Foot avec Jean-Louis, que j'étais content pour vous, parce que vous avez toute la saison essayé de faire du jeu. Et malgré les difficultés, malgré les doutes, vous avez continué d'essayer de faire du jeu. Et ça, j'imagine que ça doit être une énorme fierté pour vous de se dire, vous n'avez pas mis le bus toute la saison, vous n'avez pas essayé de jouer les petits en mettant 7 défenseurs, 8 défenseurs. Ça doit être une petite fierté quand même.
Ouais, non, c'est sûr. Alors, ça a pas marché sur cette deuxième partie de saison, mais on peut retenir comme la première partie de saison où on a quand même fait de très belles performances, de très gros matchs, notamment à la maison. On gagne contre Monaco, on gagne contre Lille, on fait trembler Marseille. Donc voilà, non, on a essayé de continuer ça. Alors c'est pas évident quand les résultats ne suivent plus. Mais
oui, parce que vous avez fait une victoire sur les 10 derniers matchs.
Ouais.
Raconte-nous un peu cette période. Est-ce que vous avez senti que ça vous échappait, que la dégringolade allait continuer jusqu'au barrage ou même vers la descente? Vous avez douté un moment?
Oui, forcément qu'on a douté, qu'on a eu un peu peur. C'est normal. Après, parce qu'on était dans une spirale ultra négative, et on voyait bien que tous les signaux ne passaient pas.
Le match où vous étiez vraiment fatigant, c'est le match à Lille, à Nice, qui doit être le match du maintien, et ça s'est transformé en match de l'angoisse.
Ouais, c'est clair, hein, c'est clair que,
à 11 contre 10.
C'est sur ce match-là qu'on a de très gros regrets, parce qu'on gagnait 2-1. On gagnait 2-1 à l'extérieur. Ils prennent un carton rouge et on arrive à perdre 3-2. Donc ce match-là, on était un peu énervé à la fin du match. Hein.
Et alors dimanche, raconte-nous comment ça se passe. Donc vous faites quand même un bon match contre le PSG, même si vous perdez 2-0, vous sortez de là en vous disant quand même que vous avez tenu le match. Et après, il y a ces secondes au coup de sifflet final d'attente.
Ouais, c'est ça. Bon, après, même pendant le match, on était au courant des scores. On a même su que Nantes a eu un penalty refusé pendant le match. On était au courant de tout avec les deux trois photographes derrière le but de Gauthier, où on leur demandait les infos. Et oui, après le match, bah, le match de Nantes était toujours pas fini. Donc on s'est mis devant, on a pris nos portables et on s'est mis devant pour attendre la fin.
Et depuis, vous célébrez ça comme un titre, ce maintien?
Non. Enfin
l'Arseneur, il le fait comme un titre. Hein.
Ouais, Gauthier, moi aussi, hein, j'étais avec lui, vous inquiétez pas, j'étais avec lui hier encore. Mais oui, alors pour nous, forcément, comme on est des joueurs du club, on se rend bien compte de ce que c'est. Voilà, on a bu quelques coups quand même pour fêter ça c'est sûr.
Dis-moi, est-ce que votre deuxième partie de saison s'explique aussi par tout ce qui s'est passé autour de votre coach? Très vite, on l'a annoncé dans plein d'autres clubs de Ligue 1. Est-ce que ça vous a déstabilisé?
Je sais pas si c'est dû à ça. Alors sûrement que ça a joué parce que ça, c'est vrai que ça fait pas toujours plaisir quand on voit que ton coach est annoncé un peu partout alors qu'il est toujours sous contrat. Il est toujours sous contrat, donc ouais, ça a pas dû aider, ça c'est sûr. Après, c'est les joueurs sur le terrain, hein. c'est plus le coach une fois que le match a commencé. C'est nous, donc ouais, mais c'est vrai que ça a pu jouer un rôle.
Et toi, t'es encore sous contrat aussi, Brendan?
Ouais, je suis sous contrat jusqu'en 2023.
Tu vas rester à Brest cet été?
Ouais, je sais pas. c'est bien parti pour. Voilà, c'est pas.
Ça veut dire qu'il y a pas eu d'offre.
C'est pas une question piège du tout, mais c'est vrai que moi j'ai pas eu le temps de faire le point avec que ce soit avec le club ou avec mes agents. J'ai dit que je les appellerai dans la semaine. Donc, mais après, moi, je suis très content.
Bon, très bien.
Très content à Brest. Hein.
Si tu signes au Real, tu nous préviens quand même.
Et je pense.
Oui, vous le saurez. Hein, vous le saurez. Il faudra faire une émission Moscato à Madrid.
Ah bah là, on fait une émission spéciale. Ouais, si tu signes au Real. Ouais,
mais je pense, tu sais, on le verra la saison prochaine. Mais le Covid a pénalisé tous les clubs, évidemment, mais je pense qu'il y en a certains, dont Brest, qui ont été encore plus pénalisés, parce que Brest sans public, c'est quand même un gros handicap pour les joueurs, je trouve.
C'est clair. C'est clair que nous, dans notre petit stade, le public est très proche des joueurs. Et il y a toujours 15 000 personnes au stade, et on sent leur force, leur engouement. Et c'est vrai que des clubs comme nous, même je pense à Nîmes aussi. Je pense à Nîmes aussi qui a un public assez chaud, et ils auraient pu gagner des points là-dessus aussi. Donc c'est vrai qu'on a hâte de retrouver tous les supporters au stade l'année prochaine.
Merci Brendan d'être venu sur RMC.
Merci beaucoup Brendan
et bravo pour ta saison.
Eh ben pas de souci. Merci beaucoup les mecs, bonne soirée.
On prépare le contrat de consultant en plus de joueurs l'année prochaine.
Vous pouvez. Je suis dispo.
Vu la pub qu'on lui a fait, j'espère quand même qu'on va pas découvrir ailleurs. Je sais pas quel club a un intérêt pour Brendan. C'est pour nous.
Ça, en revanche, je te jure, ça je l'accepterai pas. Parce que déjà je l'accepte avec Roland, je vais pas l'accepter qu'une deuxième personne.
Non. Je vous envoie les infos.
Allez, très bien. Merci Brendan.
Dès que j'ai des infos, je vous envoie ça.
Allez, merci, ça marche. Brendan. Salut Brendan.
Allez, super, bonne soirée.
Brendan Chardonnay, donc le défenseur de Brest. Dans une seconde. Le barrage. On a parlé de Nantes hier, on va parler de Toulouse ce soir, les Toulousains qui se préparent. Donc, est-ce que cette saison, le club de Ligue 2 est pas favori? Souvent, on met le club de Ligue 1 parce qu'il reçoit au retour, mais
oui, mais là, c'est la première année que le club de Ligue 1 est handicapé avec 48 heures de moins de récupération. Et
aussi, c'est vrai. On en parle dans un instant avec Wilfried Templier, notre correspondant à Toulouse. À tout de suite. Alors, si vous nous rejoignez seulement maintenant, je vous invite à aller écouter le podcast de Top of the Foot. Déjà parce qu'il faut le faire tous les jours. Et en plus, parce que ce soir, il y avait quand même Rudy Garcia qui a réglé ses comptes de manière franche, directe, avec Juninho, en disant notamment que cette saison, le directeur sportif avait marqué des coups francs contre son camp. Compliqué de marquer des coups francs contre son camp. L'image est belle, mais c'est quand même impossible.
Oui, mais là, c'est un petit peu la démonstration et la preuve que vraiment le règlement de compte était organisé avec.
Oui, il l'avait préparé, celle-là.
Les petits signes.
Il l'avait préparé.
C'est vrai, bon, en fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise?
Non, mais voilà, vous avez le podcast pour écouter tout ça, réécouter l'interview donc de Rudy Garcia. Vous pouvez réagir sur nos réseaux sociaux et vous l'avez également sur rmcsport.fr. Grosse semaine dans Top of the Foot, puisqu'hier on était donc à Lille avec les champions de France. Aujourd'hui, Rudy Garcia a mis le feu à Lyon. On verra ce qui se passera demain. A priori, il y a la finale de l'Europa League. Ça doit être plus calme.
Plus calme.
A priori, à tout de suite.
RMC, Top of the Foot, 18h-21h,
Mohamed Bouafsi, Jean-Louis
Tour. 20h51, c'est Top of the Foot sur RMC avec Coach Courbis. On va vous présenter le barrage côté toulousain dans un instant, mais c'est parti au rugby. Union Bordeaux-Bègles, Montpellier, Nicolas Paolorsi.
Oui, c'est parti depuis 5 minutes, 3-0 pour l'UBB, une pénalité de Jalibert. Les Montpellierens qui sont champions d'Europe, hein, ils ont été sacrés vendredi en Challenge Cup, c'est la petite coupe d'Europe, et ils ont changé quasiment leurs 15 joueurs pour débarrer ce match, avec notamment 5 joueurs espoirs. Ça va être compliqué pour Montpellier alors que l'UBB vise la troisième place avec ce match en retard. 3-0 pour Bordeaux, 5 minutes de jeu.
Merci Nico. C'est sa première cette saison dans Top of the Foot. Wilfried Templier est avec nous. Salut Wilfried.
Ouais, tout arrive à qui s'y attendre. Hein.
Première hors direct. Voilà, pour parler d'un de tes clubs.
On était patients. On a été patients, on a été récompensés.
On y a toujours cru.
C'est pas fini, hein?
Non, ah, ça fait
fini.
Que commencer.
C'est vrai que c'est pas d'ailleurs. Fini. Avec donc ce barrage entre Toulouse et Nantes. Alors, déjà, le premier truc à Toulouse ces dernières semaines, c'est de se débarrasser de cette épidémie de Covid qui a frappé le club.
Oui, parce que c'est parti. Alors, il y a eu une première phase l'été dernier, mais c'est surtout là, début avril. Il y a eu 3 cas le lundi 5 avril, 2 autres le samedi suivant, 11 en 2 semaines, 16 au total, 4 membres du staff. Bah, c'était au pire moment, en fait, pour Toulouse, hein, qui a eu 2 matchs reportés, une défaite au Paris FC après 10 jours de coupure. Et puis après, ils ont dû enchaîner 4 matchs en 11 jours. Bah, tout ça pour arriver sur un nul concédé face à Pau en match en retard, qui ôtait tous les espoirs de monter direct. C'était à 3 jours de la dernière journée et dans la lutte avec Clermont, quoi. Donc après Pau, finalement, on a mis tout le monde au repos. Garande, une fois qu'il a su qu'il allait faire le barrage, a fait tourner sur le dernier match à Dunkerque. Et dès le dimanche, le lendemain de la dernière journée, il y a un groupe de 20 joueurs qui a été constitué. Le staff avait prévu 2 jours de physique, en fait. Le lundi et le mardi, c'était vraiment réglé pour chaque joueur par rapport au retour de Covid, chaque cas individuel. Donc lundi et mardi, physique, et c'était la semaine dernière. Une fois qu'ils ont su que c'était Grenoble, 2 jours de foot, mercredi et jeudi. Et on nous a dit au club que la fraîcheur physique physique mais aussi mental était vraiment revenu à ce moment-là. Ça se sentait aux entraînements sur les attitudes et ça s'est vérifié face à Grenoble avec cette victoire 3-0 avec des buts de Spirin, Koné et Ilé.
Ce qui est peut-être le contraire du côté de Nantes qui ne s'attendait pas du tout, disons plus du tout, à jouer les barrages. Si il y a trois semaines de ça, on leur avait proposé, ils auraient peut-être sauté de joie pour faire les barrages. Ouais. Mais là, ça doit être quand même un coup de marteau sur la tête.
Et même pendant le match à Montpellier, ils se sont vus sauvés.
Et oui, et deux jours de récupération de plus pour les Toulousains. C'est pas évident du tout.
Alors le match aller c'est jeudi 20h45 à Toulouse, ouais. Donc avant donc le match retour un peu plus tard. Alors pour ceux qui connaissent pas Toulouse, qui ont pas trop suivi la Ligue 2 dimanche, ouais, exactement. Toulouse c'est la meilleure attaque de Ligue 2. En revanche derrière c'est un peu plus compliqué en défense.
Meilleure attaque avec 71 buts au bout de 38 journées. Pour info, la deuxième attaque, Auxerre, était à 64 buts. Hein. Ça vous dit quand même 7 de plus pour les Toulousains. Et vous en ajoutez 3 dans la musette des Grenoblois en barrage. Ça donne une idée de la force de frappe offensive de cette équipe où beaucoup de monde marque, en fait, puisque 14 joueurs ont marqué au moins cette saison. Ils sont 6 à plus de 5 buts. Vous avez Ilé, l'anglais, qui a 14 buts. Bayo, l'ivoirien, 10 buts. Spierings, le landais, 9 buts. Adli, 8 buts. Antiste, 6. Et Van den Boomen, 5. Ça fait beaucoup de joueurs capables de marquer plusieurs buts. À l'inverse, tu l'as dit Jean-Louis, l'interrogation à Toulouse c'est aussi la défense qui apporte pas toutes les garanties et au-delà de l'épidémie de Covid qu'on a évoqué, peut-être ce qui a coûté la montée directe. 42 buts encaissés cette année, c'est la 7e défense de Ligue 2, ça fait beaucoup hein, pour un prétendant à la montée directe avec des joueurs qui se mettent parfois le feu tout seul par fébrilité, c'est arrivé au capitaine Ruben Gabrielsen, parfois aux jeunes, je pense à Rouault, Diakité ou même le Belge De Vast en défense centrale. Alors quand on a demandé aujourd'hui à Patrice Garand la différence entre le bas de tableau de Ligue 1 et le haut de Ligue 2, ou entre les deux divisions, le coach prévient, il y a une différence vraiment, même si tout de même, il y croit, écoutez-le.
En Ligue 2, par exemple, si vous perdez 5 ballons, vous prenez 2 buts. En Ligue 1, vous perdez 5 ballons, vous prenez 4 buts. C'est ça la différence. Sur le niveau technique du match, il faudra avoir le moins de déchets possible. Il faut sur le plan défensif être très, très discipliné, très costaud. Et puis après, on a des armes, nous, pour poser les problèmes à cette équipe-là. Alors après, effectivement, une équipe qui est en difficulté, qui joue son maintien en Ligue 1 par l'intermédiaire des barrages, est-ce qu'elle est plus forte ou moins forte qu'une équipe qui a joué le haut tableau de la Ligue 2? Très honnêtement, il n'y a que la vérité du terrain qui va le dire. Ce que je sais, c'est que mon équipe est capable, je leur ai dit toute la saison qu'ils étaient capables de battre n'importe qui. Je pense qu'on peut battre tout le monde. Après, il y a des éléments que je viens d'évoquer. Voilà. La vérité, ça va être au moment du match.
Coach, qu'est-ce que tu en penses de son discours?
Oui, on peut rajouter presque. Capable de battre tout le monde, presque tout le monde, oui. Mais bon, c'est souvent un petit peu une certaine euphorie quand on est à la veille d'un match aussi important.
Mais la dynamique, elle est pour Toulouse, non?
Moi, je vois du 50-50. Si tu me demandes 51-49, ben, je vois plutôt 51 côté Toulouse que...
Moi aussi.
Après, la dynamique, Nantes, elle est là quand même, hein. Hormis le dernier match, ils étaient bons avant, hein.
Et même le dernier match,
Il fait un coup. Il est fou. Tu crois que tu te sauves, t'as le penalty, tu l'as pas. Finalement, tu perds contre une équipe qui n'avait plus rien à jouer.
Et... Après, quand tu joues le maintien et que tu perds contre Montpellier, c'est pas infamant non plus. Montpellier, c'est une bonne équipe.
Mais Montpellier qui n'a plus rien à jouer.
Oui, là, t'as bien vu qu'ils avaient quelque chose à jouer. Ils voulaient régler leur compte avec Kita. Enfin, Der Zakarian, en tout cas. En tout cas, Wilfried, à Toulouse, comment ça se passe? Là, on retrouve un peu goût au foot. On retrouve un petit attachement vers le club.
De la fierté. Parce que la saison dernière a été affreuse, souvenez-vous, 3 entraîneurs, Casanova, Kumbuaré, que les Toulousains vont retrouver, hein. 11 défaites en 13 matchs pour Kumbuaré à Toulouse, puis Denis Sanko, 13 points seulement l'année dernière en 28 journées, 21 défaites, vous imaginez, Garand a dit aujourd'hui, j'ai connu des traumatismes, avec récupérer des équipes qui étaient descendues en Ligue 2, mais comme celui-là, retrouver les joueurs comme je les ai trouvés, jamais. Il dit, on avait 2 points en compteur après 4 journées, Toulouse a commencé par 2 défaites, hein, à domicile face à Dunkerque et 5-3 à Grenoble. Hein, ouais. Ils avaient pris un 5-3 à Grenoble. Et ben, ils ont gagné. Il y a eu un déclic, c'était le 26 septembre.
C'est là qu'ils ratent la montée directe.
Peut-être. Ouais. Mais le 26 septembre 2020, soit 300 jours après leur dernière victoire, et bien Toulouse a battu Auxerre et la machine s'est lancée comme ça. Mais il a aussi dit qu'il y avait une nouvelle connexion entre le club et les supporters.
Ah bah, oui, en revanche, avec ce nouveau projet. Oui, en revanche, il n'y a pas une nouvelle connexion chez toi. Donc ça se dégrade légèrement. Donc on va en rester là. Mais Wilfried, on aura le temps de se reparler. T'inquiète pas, on va pas attendre un an avant de te reprendre dans ton Pop the Foot.
Mouline pas assez pour la connexion. Là,
c'est ça. Merci Wilfried. Rendez-vous donc jeudi soir pour Toulouse-Nantes, le match aller du barrage. L'after arrive tout de suite. suite, comme tous les soirs à 21h, avec Simon Dutin ce soir. Salut Simon.
Salut Jean-Louis, bonsoir messieurs.
Alors le
salut Simon. On va revenir sur le tir de barrage effectué ici même par Rudy Garcia, qui a provoqué ce qui ressemble jusqu'à présent au clash de l'année, de la saison. Le départ de Galtier, les conséquences pour lui, pour le club lillois, l'interview de Benzema, le bilan de la saison de l'OM. Et puis les drôles de dames sur le divan de l'after, elles auront le temps de nous raconter ce qu'elles ont pensé de la saison dans leur championnat domestique. Il y a vraiment beaucoup à dire, avec notamment l'élection du taulier et du flop dans chacun des championnats concernés.
Parfait, l'after jusqu'à minuit, Top of the Foot de retour demain, 18h.
Bonne soirée.
Retrouvez Top of the Foot en podcast
dès maintenant sur rmc.fr.